Alors voilà, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Évidemment, vous avez lu deux ou trois choses peut-être autour de l'intitulé de cette table ronde qui a pour titre « Qui crève les artistes ». Alors, il n'y a pas trop de chance aujourd'hui qu'on fasse un enterrement de première classe aux artistes et à la création, vous en doutez bien. Marie-Hélène vous l'a dit, on veut essayer de comprendre ce qui les motive et on a voulu mettre autour de ces deux tables rondes, dont celle-ci, différents artistes qui touchent la création contemporaine. On va essayer de comprendre à quoi ils carburent, ce qu'ils galvanisent, pourquoi ils sont perçus par un certain nombre d'entre vous comme parfois des irréductibles empêcheurs de jouer en rond, pour ce qui est des gens de théâtre notamment. Et je pense que c'est un secret pour personne que l'ère actuelle valorise énormément tout ce qu'on appelle les metteurs en marché. Alors, pourtant, la création actuellement est furieusement vivante. Le Festival en cours le prouve abondamment. Et on n'arrête pas pourtant de décrire notre époque comme une époque de désillusion, de cynisme, où le cash et la compétition tiennent le haut du pavé. Je pense que nous allons aussi, si vous le voulez à l'occasion, se faire un peu l'avocat du diable à l'intérieur de ce débat et se demander aussi, est-ce que l'époque est si dure vraiment envers la création? Est-ce qu'il n'y en a pas... Est-ce qu'elle est pire que d'autres, pas si lointaines? Est-ce qu'on n'a pas plus de moyens de travailler qu'avant? Est-ce qu'on ose assez? Est-ce que l'artiste doit être absolument maître de son travail? Est-ce que les artistes ne rêvent pas aussi secrètement d'avoir beaucoup de succès? Quelle est la dimension du pouvoir dans le travail des artistes? Et comment les artistes négocient cette éthique? L'éthique de cette dimension du pouvoir. Alors, au fond, ce qu'on va essayer de faire ensemble, et vous allez être invités à y contribuer, c'est de faire un peu le portrait de la création contemporaine aujourd'hui, ce qui la caractérise. Chacune des deux tables que nous avons montées aujourd'hui, grâce au travail beaucoup de Stéphane Lépine, que j'ai baptisé notre entremetteur en chef, qui est ici présent, vert pomme, les tables sont toujours constituées de la même façon. Nous avons un invité, donc un homme de théâtre dans les deux cas, qui vient de l'étranger. Il est à ma gauche, il s'appelle Patrick Lemauve. Mais je le soupçonne d'être assez à gauche. Il est à ma droite. J'ai tourné la table droite. Donc, toujours un homme de théâtre invité du LTA, quelqu'un en théâtre qui travaille surtout ici, dans ce cas-ci, ça sera Waldi Mouawad, que vous avez reconnu à mon extrême droite. Et deux autres artistes de disciplines différentes, et ça, nous y tenions. Donc, quelqu'un qui travaille en musique électro-acoustique, Robert Normando, à ma gauche, vraiment, et à mon extrême gauche, même si elle déteste les extrêmes, une chorégraphe que vous connaissez sans doute, Isabelle Van Grim. Donc, la manière dont ça va fonctionner, c'est que dans un premier temps, je vais donner la parole à deux des participants à cette table ronde, et que régulièrement, et tout de suite après, je vais aller dans la salle. Il y a six personnes qui ont été approchées par le festival, qui sont parmi nous, qui ont préparé une intervention sur le même thème que celui qui va alimenter nos panélistes. Alors, je vais aller dans la salle, je vais vous les nommer, si je retrouve ma petite liste. Ce matin, on va entendre Jasmine Dubé, Martin Fauché, Mélanie Dumont, Daniel Léveillé, Jessimile Standout et est-ce que j'ai dit Gervais Gaudreau? Non. Alors, je ne vous dis pas dans quel ordre, c'est juste pour les mettre un petit peu sur le grill. Donc, vous pourrez aussi, on a en principe 1h30, vous pourrez aussi, ceux et celles qui sont intéressés, manger sur place ce midi, vers midi, il y aura des choses qui vont arriver et qu'on pourra se procurer à coût imbattable, j'en suis persuadée. Donc, On y va. Je vous présente un peu plus longuement mon premier invité. À ma droite, Patrick Lehoff, qui est un homme de théâtre accompli, qui travaille dans le milieu depuis les années 70. Il est français, donc auteur, acteur, metteur en scène, directeur de quelques compagnies en France, dont L'Attroupement, qui est né à Strasbourg, et L'Attroupement 2, qui est une création issue de L'Attroupement, qui, elle, a opéré surtout à Lyon. Il les a dirigés pendant 15 ans, il a tourné en Europe, en Afrique, en Asie. Il a ensuite fondé et dirigé une autre compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Place Publique, dont l'objectif était de faire du théâtre sous chapiteau. Il a quitté la direction de cette compagnie en 2000 pour prendre la direction du Festival international des francophonies à Limoges, donc un festival de théâtre, nécessairement, poste qu'il va quitter l'an prochain, en début d'année 2006, pour se consacrer à ses fonctions de comédien de metteur en scène. Il a aussi tourné pour le cinéma. Et il a collaboré à titre d'acteur et de co-producteur avec un autre panéliste qui est Wajdi Mouawad. Patrick, j'ai envie de vous demander, de rompre la glace et de nous dire qu'est-ce qui vous motive, vous, encore et toujours, 30 ans plus tard, à faire le multiculturel.
Les motivations changent. Les motivations d'aujourd'hui ne sont pas la même que celles de demain et certainement pas du tout la même que celles d'il y a 20 ans, 25 ans. Heureusement, mais parce que c'est. Disons que, en prenant la question, je la reliais avec le thème qu'ils crèvent les artistes et je me disais, qu'est-ce que cette phrase de Cantor. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle veut dire, oui, le corps social est les artistes? Est-ce que ce n'est pas une vision caricaturale, extrémiste? Au fond, je pense qu'il a profondément raison. Et le mot qui me venait quand j'entendais cette question, qu'est-ce qui vous anime? Je dirais c'est le mot attention. C'est-à-dire, comme si le théâtre était un lieu où pouvait s'exercer l'attention. Et j'aime ce mot, surtout quand il se réfère à Augustin, qui, dans le livre des Confessions, les Confessions, il y a un grand chapitre sur le temps, il a une longue réflexion sur qu'est-ce que c'est que le temps. Il essaye de savoir si on arrive à capter le temps, qu'est-ce que le temps présent, qu'est-ce que le temps passé, qu'est-ce que le temps futur. Et il en arrive à la conclusion que le temps, on ne peut absolument pas le décrire. Il y a quelque chose qui est absolument rétif à la description. Comme il dit, si on ne pose pas la question, je sais ce que c'est. Si on me pose la question, je ne sais plus. Il dit, le temps n'a pas de durée. Qu'est-ce qui peut durer? Quelle est la seule chose qui permet la durée? Nous permet de sortir de cette chose assez angoissante qu'est la mesure du temps. Il dit, c'est l'attention. Parce que l'attention est sans limite. Il y a une possibilité de se sortir de ce carcan, de cette trilogie infernale, aussi bien décrit par Kafka ou bien d'autres, tout le monde se heurte à ça, les physiciens, et c'est encore le lieu de l'attention. Et comme s'il y avait un combat permanent entre le temps qui serait divisé, le présent, le passé, le futur, et cette chose qu'on appellerait l'attention. Et je crois que, effectivement, dans le mot attention, c'est un petit mot de rien du tout. Hein, comme on dit, être attentif, être attentionné. C'est un mot qui a très très peu de charge théorique, très peu de crédit théorique. C'est un petit mot banal. Mais ce petit mot permet de regarder avec énormément d'ouverture, parce que qu'est-ce qu'il sollicite? Il sollicite ni l'opinion, ni l'idéologie, ni notre passé, ni notre futur, simplement l'attention. Et le théâtre ou les arts, sans doute que, parce qu'on se pose toujours la question de quelle est sa nécessité, c'est, je la mettrais sous ce vocable, c'est-à-dire c'est encore un lieu où on peut regarder le monde avec beaucoup d'attention. Et l'attention suppose d'être attentif aux moindres détails. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, effectivement, quand on regarde, que ce soit le corps social, le corps politique, l'objet même du théâtre, hein, le moindre détail, c'est comme quand on rentre dans une maison, tout est important quand on rentre dans un théâtre. Qu'est-ce qu'on mange, comment on est reçu, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit sur scène, pourquoi maintenant on a l'habitude, on fait le noir dans la salle et on commence, parce qu'on est plus attentif au fait de savoir est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est pas nécessaire. Et je crois que, au fond, on n'a jamais été dans une période où il y avait autant, entre guillemets, de spectacles. Et, d'une certaine manière, il y a une production de deux choses. D'un côté, énormément d'artistes et de spectacles. Et de l'autre côté, cette fameuse phrase de Cantor, qu'il crève les artistes, c'est que on ne peut pas être simplement dans un combat, les artistes sont, entre guillemets, les bons, et le marché serait le méchant. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, entre nous, on peut se dire, allez, se réconforter en nous disant, nous, on est des artistes. C'est-à-dire, je crois que, de part et d'autre, il y a un combat permanent entre le temps de l'attention et le temps de la circulation incessante, comment on dit, à flux tendu, de la maîtrise du temps, hein, on va aller de plus en plus vite, se transporter de plus en plus vite, c'est-à-dire, c'est une sorte de combat, un peu comme un hamster dans une roue, hein, et le spectacle peut être pris par ça aussi. Et je crois que ce n'est pas une question de personne, c'est un effet de structure. À un moment, il y a deux forces en présence, le temps de l'attention et le temps de la circulation infernale. Et d'une certaine manière, c'est à nous d'être vigilants, de faire en sorte que le temps de l'attention ne soit pas sans cesse le grand perdant. Alors qu'on voit bien, dans certains pays, dans certaines sociétés, le temps de la circulation, entre guillemets, le temps du hamster, gagne, et puis, où le temps de l'attention est complètement sous ses fourches codines, et c'est sans doute à nous d'essayer de faire en sorte, non pas de le faire disparaître, parce qu'on ne fera jamais disparaître le temps de la circulation, mais d'essayer de maintenir une sorte d'équilibre, mais ça suppose énormément d'énergie, parce qu'on est vite happé dedans, et même dans une production artistique, on peut être d'un bord ou d'un autre. Mais si on n'a pas la conscience que ces deux temps sont en tension, on sera de toute façon très très perdant et on aura des spectacles sans art. D'ailleurs, le temps de l'attention n'est pas celui, uniquement celui des arts. Disons que lorsque la science est vraiment un art, oui, c'est l'amour et un temps de l'attention, effectivement. Et c'est vrai que ce qui me motive là maintenant encore, c'est de me dire, effectivement, c'est encore un endroit où le temps de l'attention peut être travaillé. Alors bien sûr, ça a plein d'incidences, parce que pour que cette attention soit possible, effectivement, ça suppose, dans l'événementiel, dans le factuel, de parfois remettre en cause les conditions de production pour que ce temps d'attention ne soit pas complètement l'animer. Voilà pour faire une réponse.
Pour faire une jolie réponse métaphorique quand même, et je cite une phrase que j'ai lue de vous qui va bien avec ce que vous venez de dire. Vous avez dit quelque part que le théâtre c'était de la philosophie en chair et en os. Et au fond, tout à l'heure, vous disiez nos motivations changent. Quelles étaient-elles il y a 30 ans ou il y a 10 ans qui sont si éloignées de ce que vous venez nous dire maintenant?
Bon, je n'ai pas du tout les mêmes formulations. Je ne sais même pas quand Justin, j'imagine que c'est un prénom footballeur, ce qui, moi, m'a amené à faire du théâtre, c'est la première fois je n'allais jamais au théâtre, je ne fais pas tout petit, je n'avais pas la vocation, je ne faisais pas dans le salon des séances de marionnettes où mes parents étaient ébahis devant tant de créativité. plutôt l'inverse. Disons que je me suis retrouvé un peu comme ça sur les conseils d'un orientateur psychologue qui est. Dit à ma maman, fais-lui donc faire un peu de théâtre, ça va le fermer. Et je me suis retrouvé à faire un stage de théâtre et avec quelqu'un qui avait fait l'école de Strasbourg. Et c'est la première fois que j'associais l'idée de travail à l'idée de plaisir et de contentement. C'est-à-dire que je ne savais pas que ça existait. Mes parents travaillaient en usine, moi-même j'avais pu travailler, et j'avais du mal à faire ce mariage contentement et travail. C'est un peu comme une ouverture. Et je me dis, comme ça avec le recul, si j'avais trouvé un ébéniste qui avait su faire le lien entre les deux, peut-être que je serais devenu ébéniste. Mais c'était cette jonction assez miraculeuse que le travail n'était pas uniquement lié à l'idée des séparages.
Mais ça, ça a duré le contemporain, et le travail. Ça a traversé les 30 ans aussi par moment.
Pas tout le temps. Par exemple, si j'ai arrêté, par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter pour prendre la direction du festival, j'ai arrêté parce que je n'aimais plus beaucoup ce que je faisais, je m'ennuyais en répétition. Je trouvais que les spectacles que je faisais n'étaient plus très intéressants. Je me suis dit, il ne faut pas attendre trop que les autres s'en aperçoivent avant moi. On arrive toujours à régler les entrées et les sorties, on arrive toujours à se faire applaudir par mille mécanismes. Et que les gens trouvent ça un peu intéressant. Mais je pense que, justement, ce temps d'attention n'y était plus du tout. J'étais dans une sorte de temps répétitif, un peu comme ces professeurs qui sont au bout de 20 ans de carrière et qui rêvent d'une année sabbatique parce que l'idée d'aller au lycée leur est un peu insupportable. Donc, je pense que j'avais besoin d'une jachère parce que cette animation était bien.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche au risque là-dedans, à une certaine façon d'avoir perdu un certain goût du risque qui n'est pas dans le sens de premier, là, on essaye quelque chose, qui est profondément de risquer, de trouver quelque chose qu'on ne sait pas. Vous avez écrit sur le risque et c'est ce qui me fait vous poser cette question.
J'associe toujours le risque au danger physique. C'est-à-dire, quand les gens faisaient la résistance, les gens la possibilité d'une perte et d'une chute. Soit on risque son poste, de perdre ses amis, de perdre son moyen de financement. Pour moi, c'est ça le risque. Il y a un enjeu majeur. Donc, souvent, quand on dit « Ah, il y a des risques théâtralement », ça m'apparaît relativement bénin. C'est pas... Sauf certains, dans certains pays, où le fait même de faire du théâtre, comme lieu de parole, pouvait amener à la mort. Aloula, directeur du théâtre national algérien, il sort du théâtre, il se fait assassiner. Ce qu'on risque d'être plus ici, à moins que quelqu'un n'ait vraiment pas supporté la Marie-Hélène, c'est pas ça. Mais c'est vrai que cette notion de risque, pour moi, il est important de la replacer dans un endroit. Et je dirais le risque, pour moi, le mot qui devrait y être attaché, c'est le mot libre arbitre. C'est-à-dire qu'on sent bien que quand quelqu'un prend un risque, ou par exemple les artistes, un peu comme ça, majeurs d'une époque, on sent qu'ils sont dans la capacité de saisir l'esprit de l'époque. Et l'esprit de l'époque, c'est toujours une sorte de conglomérat, une sorte de cristallisation de choses. Hein. C'est pas une personne qui a fait ça. Et malgré tout, une capacité à ne pas l'épouser complètement, à garder une capacité critique sur ses contentements, ses modes. Et donc, là aussi, il y a une tension. Il y a une tension entre l'esprit de l'époque et une tension entre un point qui serait un point extérieur, qui serait le libre arbitre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense? Et je pense que ça ne doit pas s'appuyer sur des opinions. Les opinions, c'est aussi une sorte de... Comment dire, de buffet, hein, avec des choses qu'on a lues récemment, pas récemment, mais le libre arbitre, ce qu'on a entendu, hein, cette chose où on a la capacité de dire oui le lundi, mardi on dit non, suivant qui a parlé, et sans doute que le libre arbitre va s'enfoncer un peu plus profondément. Hein. C'est un peu comme quand on se pose la question, la morale, sur quoi se fonde-t-elle? Est-ce qu'il y a un fondement des choses? Le libre arbitre va vraiment au-delà des opinions. Il va chercher beaucoup plus loin, beaucoup sur les impératifs catégoriques de chacun, mais surtout pas sur l'idée. Et celui qui a la capacité à se dégager uniquement de l'opinion et de l'idée, celui-là sans doute conserve un peu son libre arbitre.
Merci beaucoup. On va entendre quelqu'un qui a flirté avec le théâtre, a travaillé avec des gens de théâtre, mais dont le métier premier est d'être metteur en son, comme je l'ai lu, une jolie expression. Il est musicien, il s'agit de Robert Normando, qui est créateur de musique électroacoustique depuis une bonne quinzaine d'années. Il est professeur aussi, il a été formé en composition classique et électroacoustique. Il est détenteur d'ailleurs du premier doctorat en 1992 dans cette discipline. Il est cofondateur et directeur de Réseau, une société de concert dédiée à la diffusion de la musique électroacoustique. Donc cette musique qui utilise des sons, des voix, des bruits, des sons d'instruments aussi, qui fait des choix, et on dit que son travail fait, la résultante de son travail, c'est de faire souvent du cinéma pour l'oreille. Il compose donc en vue de concerts électroacoustiques, mais aussi pour d'autres pratiques. Il a travaillé beaucoup avec Brigitte Henkens et avec la chorégraphe Linda Gaudreau, qu'on va recevoir cet après-midi à notre table ronde. Et il a beaucoup réfléchi à cette relation musique-représentation théâtrale notamment. Alors vous, Robert, un peu, je sais, vous m'avez dit au téléphone, vous avez quelque part tout misé sur la musique à une certaine époque, comme un objet de nécessité dans votre vie. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer 15 ans plus tard?
C'est une bonne question. Je pense qu'il faut que je fasse le partage entre mes deux chapeaux, à la fois le chapeau de producteur de concerts d'une part, et ça c'est une activité complètement différente, et celui de créateur. Celui de créateur, il demeure à peu près inentamé, c'est-à-dire que cette même nécessité qu'il y avait quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à faire cette musique. Je peux difficilement répondre par autre chose que par une nécessité absolue. C'était une chose qui était devant laquelle j'avais absolument pas le choix quand je me suis retrouvé. Je pense que si j'avais aussi trouvé un ébéniste et qui m'avait convaincu que l'ébénisterie était une chose passionnante, je pense que j'aurais pu devenir aussi ébéniste. Il s'est trouvé que c'est l'électroacoustique qui s'est trouvé sur mon passage, mais il est clair qu'il s'agissait d'une nécessité quelque part et que je ne pouvais absolument pas envisager de faire un travail qui m'aurait pas passionné. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais considéré que je travaille, d'ailleurs, que j'ai vu une entrevue récemment avec un designer qui disait travailler, je ne connais pas. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler quand je fais de la musique. On me reproche souvent de travailler énormément. Enfin, mes proches me reprochent de travailler énormément, mais j'ai jamais eu le sentiment de travailler. La musique, ce n'est pas le travail, c'est la mise au monde d'un univers qu'on appelle, mon premier disque s'appelait Lius Inouï. Donc, c'est la mise au monde de l'inouï, parce que je travaille dans un domaine où on travaille exclusivement dans l'inouï. Et c'est ça qui m'a attiré à l'origine, peut-être, c'est-à-dire que, contrairement à la musique instrumentale, où les compositeurs ont comme rôle, comme travail, de recombiner, des choses, des matériaux sonores qui existent déjà, et tout à coup de trouver des nouvelles formulations. En ce qui me concerne, le travail est complètement différent, puisqu'il s'agit d'extirper du silence ce qui n'a jamais été entendu par personne d'autre. Et donc, c'est un travail qui est d'une nature profondément différente. Et même si j'enseigne dans une faculté de musique, même si j'ai une formation de musicien, je me considère davantage comme un écrivain que comme un musicien. Un écrivain de musique. Et ça, c'est une chose que l'électroacoustique a permise, qui était absolument impensable avant l'invention de l'enregistrement. C'est-à-dire que je fabrique des sons comme d'autres fabriquent des textures, des matières, par exemple, si on pense au peintre. Les phrases déjà, c'est autre chose, parce que les phrases font appel à un langage, à un code qu'on partage, qu'on connaît, qui n'était pas forcément destiné à l'art au départ, qui est d'abord et avant tout destiné à la communication. Alors que si je fabrique des sons et que je les mets ensemble, ça n'a absolument aucune autre fonction qu'une fonction artistique. Donc déjà, c'est autre chose. Et la musique, à cet égard-là, est un peu différente du théâtre, c'est clair, à cause justement de l'absence de signification. Stravinsky disait que la musique ne signifie rien, la musique ne peut rien dire. Et il le disait exactement dans ce sens-là, c'est la musique qui est dans l'abstrait, qui fait appel à des modes de perception, de création de perception, qui sont d'un autre ordre, complètement d'un autre ordre.
Et pourquoi vous vouliez distinguer votre travail d'écrivain de la musique avec celui de producteur de spectacle?
Parce que mon travail d'écrivain de la musique est le résultat d'une nécessité intérieure, personnelle. Et quand j'ai commencé à faire cette musique, j'avais décidé de renoncer à tout et je m'étais dit je serais gardien de phare. Ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui, tous les gardiens de phare ont perdu leur emploi. Mais je ferais n'importe quoi comme travail qui ne me prendra pas la tête et qui me permettra d'être libre et de continuer à faire mon travail de musicien, de compositeur. Et ça, j'ai la même conviction aujourd'hui. Et si je perds tous mes emplois et si jamais personne ne veut m'engager, je me trouverai une job de balayeur, de n'importe quoi. Ça n'a aucune importance. Par contre, cette musique n'existe pas sur la place publique. Il n'y a aucun producteur, personne ne s'intéresse à cette musique. Et donc, si les artistes ne la prennent pas en main, ne l'amènent pas sur la place publique, il n'y a personne qui le fait. Donc, depuis 20 ans, c'est ce que je fais. Et là, c'est moins drôle. Et qu'ils crèvent les artistes aujourd'hui, ça s'adresse aux producteurs. Parce que ce que je constate ici, en tout cas, dans une ville qui est considérée comme la capitale nord-américaine de cette musique, ce que je constate, c'est l'abandon progressif de tout ce qui existait, de tout ce qui a fait ma motivation, tout ce qui a motivé mes gestes aussi comme producteur pendant 20 ans. Et tout cet encouragement, tout ce soutien qui existait est en train de s'élimer peu à peu. Et moi, je ressens une très grosse fatigue parce que j'avais l'impression, je me disais, en 20 ans, on arrivera à former des institutions, quelque part, qui permettront ensuite de former nos relèves. Et cette relève viendra nous donner, mettre l'épaule à la roue et prendra la place que nous, on a occupée. Et ça ne se passe pas du tout.
Donc, vous êtes inquiet pour
Je suis complètement inquiet pour les jeunes, notamment. C'est une vraie catastrophe. Radio-Canada a éliminé sa chaîne culturelle et du coup est passé à la trappe toute la musique de créative. Donc il n'y a plus aucun lieu public sur les ondes de diffusion de cette musique. Et puis, non seulement cette musique n'est plus diffusée, c'est qu'en plus on n'arrive même pas à en faire parler. Donc moi qui suis producteur qui organise un festival qui a eu lieu ici par exemple en janvier pendant 10 jours, ça a été absolument impossible de voir une entrevue à Radio-Canada du festival. Donc là, il y a un vrai problème, parce que si que la musique ne soit pas diffusée à la rigueur, c'est inacceptable, mais à la rigueur, mais qu'en plus, les jeunes n'aient même pas l'occasion d'aller décrire, qu'on fasse parler d'eux sur la radio publique, ça c'est un petit peu dommage.
Alors, qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves pour les motiver à continuer dans cette discipline?
Je leur dis, prenez-vous en main, c'est la seule chose que je peux leur dire. Probablement qu'à l'âge que j'ai plus le même genre de réflexe, j'ai plus le même appétit, c'est clair, pour la reconnaissance publique. La mienne existe et je ne pense pas qu'elle soit remise en question. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des nouvelles façons de faire. Nous, on essaie d'en trouver, mais peut-être qu'on n'a pas les bons réflexes. Alors, tout ce que je leur dis, c'est regardez, j'ai un outil qui peut vous permettre d'exister sur la place publique, ça va vous en. Venez nous voir, faites-nous des propositions complètement folles. Peut-être que cette musique passe par d'autres modes de représentation qui n'étaient pas ceux que j'avais imaginés quand j'étais plus jeune, ou ceux que je connais bien. et prenez-vous en main. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut leur dire.
Et qu'est-ce que le créateur Robert Normando trouve comme nourriture dans le croisement de la musique, de sa musique avec le théâtre ou avec le travail avec les danseurs? Qu'est-ce qui vous alimente là-dedans? Pourquoi vous continuez de faire ça?
Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me considère davantage comme un écrivain, et comme écrivain, je suis un personnage complètement solitaire. Je fais tout seul. Ma musique, elle sort intégralement de chez moi. J'interagis avec absolument personne. Et ça aussi, c'est une chose qui est nouvelle pour les musiciens, parce que la musique, traditionnellement, est un art d'interprétation, donc forcément, surtout en musique contemporaine, une interrelation très forte avec les interprètes, parce qu'il y a peu d'interprètes qui font cette musique, et donc cette musique doit être partagée très fortement avec des interprètes, parce qu'elle ne peut pas se lire comme une partition de Bach, une partition de Mozart. Les musiciens n'ont pas la formation, ça prend des musiciens très spécialisés. C'est pas mon cas, donc moi j'ai interagi avec absolument personne. Le lieu, particulièrement au théâtre, parce que c'est là où j'ai travaillé le plus depuis 10 ans, ça me permet de sortir de ma cave et d'aller vers les autres, de rencontrer d'autres types de paroles, d'autres types de relations, alors c'est un mode de fonctionnement qui m'était totalement étranger et qui m'a énormément nourri. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion de travailler avec Brigitte Henquez. On a fait 10 spectacles jusqu'à présent. Et ça a été une rencontre assez exceptionnelle et assez déterminante, parce que sur les 10 spectacles que j'ai fait avec elle, 7 des musiques que j'ai fait ont abouti à des œuvres de concert par la suite, dans un deuxième temps. Il y a une liberté de travail et d'interrelation, une ouverture d'esprit de sa part, qui ont fait que j'ai abordé chacun des projets comme une pièce de concert, avec toutes les contraintes que ça suppose, bien sûr. Mais... Et donc, cette façon de me permettre de sortir de temps à autre de ma cave m'a alimenté, m'a nourri et m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais faites si j'étais toujours resté tout seul. J'aurais fait d'autres musiques, bien sûr, mais j'aurais pas fait ces musiques-là en particulier.
Donc, vous êtes particulièrement, vous encourageriez les jeunes à continuer de faire ces projets.
Je le fais constamment et j'engage de plus en plus mes étudiants comme assistants, parce que ça leur permet justement d'aller fréquenter un autre milieu, de voir d'autres façons de faire. Le milieu de la musique est un milieu un peu particulier. Ceux qui ont travaillé avec des musiciens le savent. Surtout les musiciens classiques sont des gens extrêmement disciplinés, qui souvent ont acquis la maîtrise d'un instrument à un prix relativement élevé. Et ce sont des gens qui ont une relation au temps. On parlait du temps il y a un instant, qui ont une relation au temps qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'un musicien d'orchestre, par exemple, ça arrive, ça fait sa répétition, ça repart. Moi, il y a une des choses qui m'avait frappé énormément au théâtre, c'était l'extrême générosité des comédiens, de toutes les équipes, en fait, qui travaillent des heures et des heures et des heures pour monter un spectacle. C'est absolument impensable aux autres. Il y a quelque chose qui ne fait pas partie des mœurs, qui ne fait plus partie des mœurs de la musique. Et ça, on apprend énormément de choses à fréquenter le milieu du théâtre. L'humilité aussi. Comme je suis un écrivain des sons, j'avais l'habitude de montrer mon travail uniquement lorsqu'il était terminé. Et c'est une chose qui est toujours, même encore aujourd'hui, une chose assez difficile quand on est dans le processus de création, de montrer son travail, pas sur la place publique bien sûr, mais au moins dans l'intimité du travail de création, et de voir que ça va, que les gens l'acceptent.
Et le nourrissent.
Et le nourrissent, tout à fait.
Je ne voudrais pas que vous croyiez que parce que les deux premiers invités ont parlé, on n'a plus le droit de s'adresser à eux, bien au contraire. Mais comme je veux m'assurer que vous aussi, vous preniez la parole, je vais maintenant aller dans la salle. Il y a des gens qui ont préparé des choses, alors à tout hasard, j'ai décidé que nous allions demander à Gervais Gaudreau, qui est l'élu, directeur artistique et metteur en scène du théâtre Le Carrousel. Gervais, est-ce que tu viendrais ici devant nous dire un peu, toi, comment tu réagis, peut-être spontanément, à ce que tu viens d'entendre comme motivation de nos deux premiers panélistes et ce qui te motive, toi, toujours? Dans le micro.
Oui, je suis.
Vous m'entendez, ça va?
Oui.
Alors, j'avais préparé quelque chose de très, très court. Ce qui est étonnant, c'est que d'une certaine façon, et Robert et Patrick en ont aussi parlé. Alors, peut-être que dans le monde, je dirais, le territoire de la création, il y a ce que j'appelle ces pensées-là qui traversent le temps, le précieux, et donc l'espace. Je vais donner, je vais revenir un peu, parce que je voudrais lire un truc qui, sur lequel bon, qui me stimule énormément présentement. Mais je voudrais aussi parler sur le fait que dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est de voler des connaissances.
Ah.
Alors, donc...
Il y a toutes sortes de motivations, comme vous voyez.
Peut-être pour les partager, dans le sens aussi de se les approprier, pour peut-être les redire ou les développer à ma manière. Donc, ce que je volerais de ce que m'a dit Patrick, c'est peut-être l'attention, qui est peut-être la chose qui me préoccupe, je dirais, le plus. Parce qu'en gros, j'ai fait le choix depuis plus de 30 ans de travailler entre autres prioritairement en direction des jeunes publics. Alors, et c'est peut-être quand je suis devant ce public-là ou avec ce public-là, pour moi, la chose qui est la plus importante. Parce que le moment d'attention est le moment de l'intérieur. Et je me trouve, bon, après toutes ces années comme créateur, de plus en plus fragilisé entre le chemin que je peux faire comme artiste et le déficit d'attention que je ressens de plus en plus quand je suis au travers, derrière, autour, avec les enfants. Ce que je volerais de Robert, peut-être parce que, un peu comme toi aussi, je suis un formateur et que j'ai cette préoccupation-là, donc, de, avec mes étudiants, d'apprendre d'eux et de voler et de leur dire aussi de ne pas attendre, de se prendre en main pour pouvoir gérer leur espace-temps intérieur et artistique. Et donc, je fais ce lien-là entre attention et temporalité, parce que nous avons besoin du temps pour l'expression de l'artiste dans l'espace. Quand je monte un spectacle, quelqu'un me rencontrait dernièrement en me disant « Est-ce que tu pourrais nous parler de la mise en scène en direction des jeunes publics? » Alors je lui disais « Pour moi, la mise en scène, jeune public n'existe pas. Je peux te parler de la mise en scène. » Il peut y avoir des publics spécifiques, mais pour moi, il n'y a pas de différence dans le fait de la mise au monde de préoccupation. Et donc, dans le travail d'attention, ce qui me préoccupe, c'est le point de vue. Et de réaliser que, comme artiste, j'ai un point de vue sur le monde. Je réagis à ce qui vit autour de moi ou à l'intérieur de moi. Et que l'enfant a un point de vue sur le monde qui l'entoure, mais son point de vue, il le fait à partir de son expérience intime à lui. Et donc, peut-être que nos regards peuvent se croiser, mais nous ne partons pas du même point de vue. Et à cet effet-là,
une fois très drôle en préparant un peu ça, je vais citer Marie-Hélène, si vous permettez, qui parlait de déplacer le regard.
Notre patronne à tout.
Oui, pourquoi pas. Et quand j'ai lu déplacer le regard, j'ai lu au départ poser le regard, si tu permets. Alors, elle dit ceci. Tous les artistes contemporains, quelle que soit la forme que prennent leurs créations, se reconnaissent au moins une parenté. Leurs propos et leurs préoccupations touchent d'une façon ou d'une autre le terrain fragile de l'altérité. Leur art est marqué par ce désir insatiable de l'autre, par cette quête jamais satisfaite de l'inconnu, par cette nécessité d'entrer en dialogue avec l'univers et le langage de l'autre pour nous en offrir la représentation. Donc, elle parle de rencontres de circulation comme un espace où les regards se croisent et où l'imaginaire gagne sans cesse de nouveaux territoires. Donc, de l'attention, du temps à prendre. Il y a le territoire d'un artiste que j'aime beaucoup, que vous connaissez probablement, Alain Paiement. Bon, pour peut-être les étrangers qui sont ici, c'est un artiste en art visuel qui a maintenant 42 ans, qui est au milieu d'une très belle maturité d'homme et d'artiste. Et dans un catalogue que la commissaire Mme Perrault-Lignac consacrait au travail d'Alain Paiement, je voudrais juste vous lire rapidement, si vous me permettez, ceci. Qu'est-ce qu'au juste qu'habiter? On dit j'habite pour indiquer que l'on demeure, loge, séjourne en un endroit, que l'on réside quelque part, que l'on occupe un lieu. Il s'agirait donc de prendre possession d'un espace pour un instant, quelques semaines, des années, d'en prendre possession en y déposant ses objets, mais aussi en y faisant des gestes, en l'embrassant du regard, ou encore en l'investissant par la pensée. Habiter, ce serait ainsi se sentir lié à un espace, se savoir en rapport avec tous les autres corps qui l'occupent, en faire son lieu. Habiter aurait par conséquent beaucoup moins à voir avec le fait de s'établir, mais plutôt avec le fait de se fixer, donc de se situer. Bon, je ne veux pas prendre trop de temps, je vais juste donner l'autre citation, ça serait Patrick, ok?
Oui.
Sur le temps. Je vais le trouver dessus. Voilà. De temps en temps, pourtant, on devrait se demander où on est, où on en est, faire le point. Pas seulement sur ses états d'âme, sa petite santé, ses ambitions, ses croyances et ses raisons d'être, mais sur sa seule position topographique. Et non pas tellement par rapport aux axes cités plus haut, mais plutôt par rapport à un lieu ou à un être auquel on pense, ou auquel aussi on se mettra à penser.
Merci beaucoup, Gervais. Est-ce que dans la salle, spontanément, il y a quelqu'un qui brûle de nous dire quelque chose maintenant sur, à partir de ce qu'il vient d'entendre, ou si je passe à quelqu'un qui a déjà préparé son intervention? Personne ne brûle. La salle est pleine, on est pleine de bonne humeur. Je vais demander à Jasmine Dubé, à qui, quelque part, Gervais vient de tendre la perche, ma femme, de venir lui dire, donc Jasmine, qui est directrice artistique et auteure, théâtre Bouche décousue, qui nous a donné de fort belles pièces pour jeune public, notamment. À vous, ma chère Jasmine, qu'est-ce qui vous motive, vous, toujours?
Alors, moi, j'ai écrit un petit texte, mais j'ai été très touchée par l'intervention de Patrick quand il parlait de la première fois de sa rencontre avec le théâtre. Bon, ça aurait pu être un ébéniste, mais ça a été une rencontre avec le théâtre. Pour le calmer, que ses parents l'ont envoyé rencontrer des gens de théâtre pour le calmer, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et la première fois pour moi c'est important. Il faut qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait une rencontre, et c'est un peu ça que je fais comme travail moi avec les enfants. C'est ce que j'essaie de provoquer, enfin j'essaie d'avoir une rencontre. Je vous lis mon texte. Ce qui m'anime, c'est le désir de transformer le réel, de changer le monde à petite échelle. C'est la reconnaissance de l'humain qui débute sa vie, mais qu'on ne considère pas encore parce qu'il n'a pas de pouvoir. C'est le besoin de construire des ponts entre les générations. C'est ce que j'ai reçu et que je veux transmettre à mon tour. C'est le désir de réparer. Quand le monde croule, quand les tours s'écroulent, quand tout se déglingue, que je deviens dingue devant la folie meurtrière de mes congénères, quand je ne me reconnais plus dans la race humaine, alors pour ne pas sombrer dans l'impuissance, je marche. Je marche et je regarde le ciel comme si c'était le début du monde. Je marche et je cherche le pissenlit dans la craque du trottoir. Je cherche l'espoir dans une botte de foin. Je passe un fil à retordre dans le chat de l'aiguille et j'invente une couturière qui répare les blessures du monde, une Don Quichotte sur son moulin à poudre. Et quand je doute, et je doute souvent, je fais le vide et je puise mon énergie dans les images, les mots, les gestes des artistes et des enfants. Parfois aussi, c'est la peur qui m'anime, quand elle ne me paralyse pas mais qu'elle me transforme en animal et qu'elle m'entraîne dans mes territoires intérieurs inconnus, peuplés de rivières tueuses et tumultueuses, de montagnes escarpées que je gravis avec des escarpins, d'océans déchaînés où je me fais balloter sur une petite barque avec une rage de vivre qu'on ne peut pas tuer, jamais. Comme spectatrice, ce qui m'anime, c'est quand je suis témoin d'une œuvre qui me touche, me dérange, me nourrit, me choque. Comme auteur, c'est quand je suis en état d'urgence, quand l'universel rejoint l'intime sur ma page blanche et qu'au terme d'une lente gestation, j'accouche d'une étincelle, d'une lueur ou d'une goutte d'eau dans l'océan. Comme comédienne, c'est quand je suis au service d'un texte de création. Et quand je mets en scène, c'est la rencontre avec d'autres créateurs qui m'anime. C'est le pont que je cherche toujours à construire. Comme directrice de théâtre, c'est quand je suis sage-femme et qu'à la lecture d'un texte, l'urgence me prend de le faire connaître, de le porter au monde et de dire « Voilà, nous nous offrons un geste d'amour, un geste de création qui en engendre d'autres. » Et ce qui m'anime encore, d'abord et avant tout, c'est ce qu'il reste à faire, ce qui n'a pas été créé, les sentiers qui ne sont pas tracés, les territoires vierges, les utopies, l'inconciliable, l'inaccessible et la rencontre, encore la rencontre, toutes les rencontres.
Merci beaucoup, beaucoup. J'ai envie d'en prendre une troisième de la salle, vous êtes trop doués. Attendez, Mélanie Dumont, Stéphane nous l'a vendu avec beaucoup d'enthousiasme. Elle nous a dit que c'était une de ses plus brillantes étudiantes à la maîtrise à l'UQAM. Elle est à l'École supérieure de théâtre. Mélanie, voici une présentation qui va te mettre très à l'aise. Viens nous dire pourquoi toi, tu avais le goût de nous dire ce qui t'anime aujourd'hui, autour de la création ou des arts que tu reçois.
Donc, moi aussi, j'ai préparé un petit texte, mais je vous dirais d'abord que je vais parler en tant que spectatrice, parce que je ne suis pas dans la création, mais j'observe de l'extérieur. Donc, d'emblée, je dirais que les artistes, je les préfère insoumis, désobéissants, indisciplinés. Je parlerai ici d'une indiscipline toute artistique, parce que l'univers intime de ses créateurs, pour se dire, se transmettre, ne peut se satisfaire d'une discipline unique. Leur parcours en est un de la traverse, allant et venant des arts plastiques à la performance, du théâtre à la danse. Sans pour autant se laisser aller à la dérive, à la divagation, ils dénient toute appartenance à un territoire artistique aux contours bien définis, loin d'eux l'idée de s'installer, de prendre place. Cette pratique des frontières, certainement pas neuve, mais de plus en plus répandue, laisse assurément des traces dans leur manière toute singulière d'aborder chacun des domaines artistiques. Lorsqu'ils créent pour la scène, par exemple, celle-ci devient le lieu d'une écriture protéiforme dont l'énergie circule entre la parole, le corps en mouvement, la musique, les projections, les images. De même, différents registres se rencontrent, se confrontent. N'annonce-t-on pas la chambre d'Isabella, la plus récente création de la Lead Company que présente Verdea, comme une comédie musicale et tragique, une création étourdissante? Des spectacles comme celui-ci, que l'on hésite à nommer, à catégoriser par leur apparente hybridation, éprouvent fortement le domaine théâtral, le confrontant à ses limites. Du même coup, ils prouvent que le théâtre demeure un art ouvert, à redécouvrir, à réinventer. Donc ces artistes, vivement indisciplinés, vivement indisciplinaires, parmi lesquels je compterai sûrement Yann Lawers et les membres de la Lead Company, me permettent de croire que le théâtre, s'il doit impérativement changer, n'est pas encore une forme morte.
Merci beaucoup. Je pense que vous avez préparé la voix à notre prochaine panéliste, Isabelle Van Grimd, qui aime bien justement ces croisements entre son domaine de création, qui est la danse. Elle est chorégraphe, danseuse et professeure. Elle danse depuis sa toute petite enfance, m'a-t-elle dit, en Belgique. C'est tout le contraire de Patrick. Elle m'a dit que son métier de chorégraphe lui avait été imposé de l'extérieur, qu'on lui avait imposé de faire des chorégraphies au départ, sans doute parce qu'on sentait qu'elle avait un monde intérieur qu'il fallait transmettre avant elle. Et c'est ainsi que sa recherche, désormais chaudement applaudie ici et sur les scènes internationales, lui a permis de mettre en lumière plusieurs aspects qui font danser les corps. Elle dit faire une recherche plutôt existentialiste. Elle se dit nourrie par la philosophie, les arts visuels et très, très certainement par la musique contemporaine comme celle de ce séminaire. Elle a fondé Van Grimd de Corps Secret en 1992 à Montréal. Elle en est la directrice générale. Elle a offert début mai, vous l'avez peut-être vu, chanceux, les chemins de traverse. Alors, c'est comme si elle faisait vraiment suite au topo de Mélanie. Trois rencontres entre des danseurs, ces danseurs avec lesquels elle travaille, et trois formations de musiciens bien distincts de musique contemporaine qui ont improvisé devant public un dialogue, paraît-il, tout à fait jouissif. C'est sa seconde œuvre en importance, je le crois, où la création musicale et les danseurs ont travaillé de manière très très proche. Alors, Isabelle, comment réagissez-vous au propos de Mélanie quand elle parle de cette hybridation ou de cette ouverture du théâtre vers d'autres arts et par rapport à la danse, comment vous avez fait ce choix de vouloir mélanger ces deux arts de manière aussi impromptue, pardon.
Je dirais qu'en fait, paradoxalement, je ne suis pas du tout une artiste multidisciplinaire et que je travaille au contraire dans un espèce d'absolu au niveau du corps et du mouvement. Et que c'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'avoir des contacts et des collaborations avec des artistes d'autres disciplines. Et c'est quelque chose qui me nourrit énormément en ce moment. Je pense qu'en tant que chorégraphe, on a tendance à être assez isolé. Alors, je ferai écho aussi à ce qui a été dit plus tôt. Je pense que ce qui me motive aujourd'hui, ce qui me nourrit, c'est différent de ce qui m'a nourri à différentes époques de mon travail. Et il y a une grande dualité, en fait, parce qu'au départ, la danse, pour moi, c'est quelque chose de très instinctif. Alors, je me retrouve... c'est instinctif, c'est mystérieux, ça fait partie... bon, il y a des mots comme relation à l'espace, jouissance dans l'espace, évidemment relation au corps, mais surtout à la liberté. Mais c'est quelque chose de très instinctif et je me retrouve beaucoup dans des citations comme celle de Francis Bacon, le peintre, qui dit que la fonction de l'art, c'est d'approfondir le mystère. Alors il y a quelque chose en moi qui a beaucoup envie de défendre le côté absolu de l'art, c'est-à-dire un petit peu le contraire du théâtre, en fait, qui est surtout un art de transmission, je dirais, mais dans la danse et peut-être dans les arts visuels, il y a un aspect qui est qui vient très fort d'une nécessité intérieure et qui touche à l'indicible. Et je pense que du fait qu'on est dans une société où on pose toujours la question de la fonction de l'art, à quoi il peut être utile, donc on a la réponse dans la question même. En fait, je pense que puisqu'on est dans une société qui est avant tout utilitaire et fonctionnelle, l'art est d'autant plus précieux, en fait, cet aspect de l'art, puisque il nous rappelle que nous avons d'autres dimensions que ces dimensions-là. Ceci dit, je pense qu'il faut continuer à questionner la fonction de l'art dans la société tout le temps. Et je pense que c'est un des aspects les plus précieux de l'art, puisque ça nous force à nous redéfinir sans cesse en tant qu'être humain.
Mais comment vous souhaitez qu'on rediscute la fonction de l'art dans notre société? Pourquoi vous croyez que c'est si important de se demander continuellement à quoi ça?
Parce que justement, c'est un miroir. Je pense que la façon dont on pose la question, le fait même qu'on pose la question, ça nous donne un portrait de la société dans laquelle on vit. Et ça nous permet justement de comprendre pourquoi c'est l'art est une nécessité absolue, fait partie de l'essence de l'être humain. Alors, tout à l'heure, je parlais de dualité dans mon parcours, et c'est sûr que, étant chorégraphe, œuvrant dans le milieu de la danse, on est très 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 confronté justement à cette idée de à quoi ça sert, est-ce qu'il y a un sens, et donc ce sont des questions qui m'ont hanté et qui me hantent toujours. Je suis un petit peu plus en paix par rapport à ces questions aujourd'hui, mais disons que ça fait partie aussi de toute la démarche. Alors aujourd'hui, je m'adresse peut-être plus à cette dimension-là. Il y a ce questionnement justement sur le sens et la fonction qui m'amène justement à pouvoir échanger avec d'autres artistes et à être très très nourrie par cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis autant nourrie par cette recherche de ce concret, qu'est-ce que ça devient, quelle résonance ça peut avoir, ce qu'on met au monde dans l'univers, est-ce que quelle résonance ça a. Et c'est autant d'ailleurs cette recherche un peu plus existentielle ou philosophique qui me motive et me nourrit aujourd'hui que la recherche artistique elle-même.
Ce que vous disiez au tout début, dans le monde des chorégraphes, on a peu tendance à se parler. On n'échange pas tellement sur ces pratiques. Et ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que vous vous nourrissez du travail avec des danseurs, donc la relation que vous établissez avec eux, et avec éventuellement les musiciens et les différents autres concepteurs. Comprenez-vous pourquoi les chorégraphes ne s'épaulent pas, n'échangent pas, parce que vous dites toutes la même chose quelque part, vous travaillez, vous souffrez, ou vous voulez entrer en relation, être nourri par les autres, être bousculé. Pourquoi les chorégraphes n'ont pas tendance à faire?
Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais je pense que c'est en train de changer. Je vois que la nouvelle génération, les gens travaillent beaucoup plus en collectif. Il y a moins ce mythe du chorégraphe qui contrôle tout. Et d'ailleurs, avec les chemins de traverse, c'était cette idée de l'improvisation, ou plutôt de l'œuvre ouverte. C'est un peu ça que je voulais montrer. Je pense que c'est en train de changer. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est le type de personne qui est danseur ou qui devient chorégraphe qui a cette tendance-là. Il y a peut-être ça. Les chorégraphes ne sont pas des gens de mots et peut-être que c'est recherche une autre forme de communication. Mais je pense qu'il y a un phénomène historique. Je pense qu'au cours du XXe siècle, la danse est devenue un art, entre guillemets, majeur, c'est-à-dire un art d'auteur, à la place d'être un art d'accompagnement, les faiseurs de pas, etc., de ce que les chorégraphes étaient dans les siècles précédents. Et donc, il y a eu cet isolement, le fait que le chorégraphe est auteur et qu'il est tout puissant et qu'il contrôle tout et qu'il c'est son nom qui est surtout. Je pense que ça nous a enfermés aussi dans quelque chose qui est peut-être un peu stérile par moment.
Mm-hmm. Y a quand même aussi, vous l'évoquez un peu, mais il y a quand même une joie. J'imagine, quand on est en on travaille avec les danseurs ou avec des musiciens dans votre cas et qu'il se passe quelque chose. Et vous m'avez raconté une anecdote que je ne voudrais pas garder pour moi-même. Alors, j'aimerais ça que vous la racontiez aux gens, un moment que vous avez vécu un jour et que vous passez à vos élèves à l'occasion de vos classes.
Je n'ai pas encore passé à mes élèves.
J'étais la première, c'est pratique sur moi, c'est bon, allez-y.
C'est tout simplement un de ces moments, je pense que c'était au mois de janvier, on travaillait dans les studios de FLAC au centre-ville, au milieu des grands buildings, et il se passait quelque chose de très beau en studio, comme ça arrive finalement assez souvent, un petit peu un moment d'état de grâce avec les danseurs, un moment de création fort. Et j'ai eu la vision de... Je me suis posé la question combien d'autres chorégraphes en ce moment travaillent à travers la ville, dans les studios, où il se passe la même chose, et j'ai eu cette espèce de vision de tous ces espaces qui étaient créés. Des espaces ineffables, donc, et pas vus par un public, mais qui sont quand même essentiels pour moi, et c'est ça que je relis à l'idée de défendre un peu l'absolu, la nécessité de l'art. Ce sont des choses qui sont mises dans l'univers, qui sont créées, qui ne sont pas nécessairement vues par beaucoup de public à ce moment-là. Ça, c'est plutôt une question de résonance plus tard, mais ils existent, et juste pour ça. C'est pour ça que je disais que je suis un petit peu plus en paix avec ce que je fais maintenant et que je questionne peut-être moins, c'est que je me dis, mais juste ça, être en train de faire ça au lieu d'être en train de faire des choses pour le mondain et mettre ça dans l'univers, ça vaut la peine.
Quand elle me l'a raconté la première fois, elle a dit, alors on était là, c'était tellement beau, et là je me suis arrêtée et j'ai imaginé tous ces chorégraphes partout dans la ville qui vivaient peut-être des moments semblables. Et j'ai vu ça comme toutes des bulles qui montaient dans l'air de Montréal. Et je me suis dit, quand même, ça change l'air. Je trouve ça assez joli. Bon. Alors, Isabelle, vous m'avez... j'aimerais que vous me disiez, en terminant, quelle place la musique occupe dans votre travail? Pourquoi, tout à coup, vous êtes rentrée avec autant de détermination là-dedans, pourquoi la musique contemporaine?
Parce qu'il n'y a pas que la musique contemporaine, mais c'est vrai que c'est un élément important. C'est un besoin de contact, je dirais que les musiciens, les compositeurs, et un besoin de contact et un besoin de comprendre comment travailler dans l'abstraction, parce que les compositeurs travaillent comme moi, mon travail est abstrait, dans l'abstraction, et c'est quelque chose d'insaisissable. Il me semblait qu'ils avaient davantage pensé, davantage réfléchi, qu'ils avaient davantage outil, et j'avais ce besoin d'échange, et comme je suis entourée de musiciens aussi dans la vie, ça s'est fait naturellement finalement, parce que c'est une façon de trouver une résonance, un écho à mes préoccupations et de peut-être trouver des solutions ou en tout cas de pouvoir réfléchir avec d'autres.
Mm-hmm. Vous disiez tout à l'heure, je suis apaisée par rapport à mon travail et tout ça. Avez-vous l'impression que l'époque est plus difficile, plus dure pour la danse et pour les créateurs en général?
Je suis apaisée pour le moment, ça durera peut-être pas longtemps, c'est toujours très fragile ça. Mais oui, certainement, il y a un climat ici qui n'est pas favorable, dans le sens où on ne met pas assez de moyens, et ça met en danger surtout le côté de la liberté, de la création. Parce que je pense que ça crée un climat de compétition et aussi de peur et de... donc c'est plus difficile de garder son espace de liberté dans ces conditions-là. Ceci dit, moi je trouve que ça a toujours été difficile, donc personnellement, dans mon cheminement à moi, c'est peut-être pas plus difficile en ce moment, parce que peut-être que je trouve certains appuis, mais il y a un climat, oui, qui est dangereux, je trouve, pour la création. Et c'est là que je me dis, oui, nous, en tant qu'artistes, on a à réagir, mais je me demande si c'est toujours les artistes qui doivent questionner et défendre l'art et la création et la culture. Je pense que c'est aussi le rôle des intellectuels, des universitaires, d'autres personnes, des médias évidemment, mais de penseurs qui pensent autour de l'art et de la création, que peut-être ici au Québec on n'en a pas encore assez, ces gens-là. On n'écrit pas assez, on ne discute pas assez à un niveau plus intellectuel de ces questions-là. C'est peut-être certainement qu'on en discute plus dans le milieu du théâtre. Mais oui, les artistes doivent se bouger, mais je pense que ce n'est pas juste. Les artistes, c'est un enjeu de société.
Merci Isabelle.